On peut déjà enlever celui-ci. Pas besoin. Alors bonjour. Bernard, comme vous autres, un ami de Jésus, je pense à dit tout. Je l'ai découvert comme vous à travers des rencontres, à travers la famille, à travers la grande famille de Jean Vanier aussi, l'Arche, foi et lumière, foi et partage. Alors je suis tellement heureux, je me sens chez nous chaque fois que je me retrouve avec vous autres. Puis aujourd'hui, bien, on s'en vient dans toute la série de rencontres que vous avez toute l'année, approfondir notre connaissance de Jésus. Vous savez, Jésus, on le connaît, on le connaît avec notre cœur, mais on dirait qu'on a toujours du neuf à apprendre, parce que c'est lui qui veut nous parler, c'est lui qui veut se révéler à nous. Puis, vous avez choisi comme thème de la journée quelque chose qui est vraiment, mais vraiment là, au cœur de notre foi de chrétien. Dieu qui est devenu un humain. La parole de Dieu, le Verbe, s'est fait chair. Hein? Ça veut dire d'abord ceci. Ça veut dire que Dieu, hein, le Dieu qui a créé l'univers, hein, on le découvre de plus en plus, l'univers, hein, seulement c'est vaste. Ça n'a même pas fini de se former, l'univers. La création continue. C'est vaste dans l'espace, c'est vaste dans le temps. Hein? Maintenant, on a un chiffre sur l'univers, on dit quelque chose comme 13 milliards d'années depuis le tout début de l'univers. C'est un petit peu plus long que nos cantiques de Noël qui parlent que « depuis plus de 4000 ans ». Ouais. On ajoute des années puis des années. Ben, Dieu qui a créé ça, Dieu qui s'est manifesté. Voyez-vous, sa première parole à Dieu, c'est la création. Pour dire la beauté, la diversité qui est dans le cœur de Dieu, à un moment donné, dans le temps, il a créé un univers. Puis nous autres, on est là-dedans. On est même le fruit de toute une évolution de l'univers. Vous savez, des fois, là, au début du carême, c'est-tu le mercredi des cendres qu'on fait ça, là? Ben oui, mercredi des cendres, on se rappelle qu'on est de la poussière. Hein? Ben, il y a un scientifique à Montréal qui, un beau jour, nous a dit, oui, on est de la poussière, on est de la poussière d'étoiles. On vient de la lumière. On vient de cette création de lumière qui s'est diversifiée jusqu'à ce qu'un jour, dans cette glaise humaine, glaise terrestre, hein, Dieu a soufflé son esprit, puis l'être humain est venu au monde. Hein? C'est tellement beau, tellement vaste, tellement grand. Ben, ce qui est encore plus beau, puis plus vaste, puis plus grand, c'est que le Créateur a fait cet exploit absolument, non seulement inattendu, mais inouï, puis qu'il n'y a pas d'allure, de fait. Quand on y pense comme il faut, ça n'a pas d'allure. C'est un scandale. C'est une folie. Dieu, Créateur de tout ça, est devenu un petit bébé. Hein? Le Dieu qui a créé l'immensité est devenu une créature humaine, un petit bébé. Saint Paul nous le dit, hein, il dit, pour les Juifs, là, ça, c'est scandaleux de penser ça. Parce que leur image qu'ils avaient de l'Éternel, quand ils parlent de Dieu, eux autres, c'est l'Éternel, c'est Yahvé, hein, le Créateur. Quand les Autochtones parlent de Dieu, c'est le Créateur. Hein, pour montrer l'immensité, la grandeur de ce Dieu. Puis nous autres, on dit un bonjour, une date, un lieu précis, petit village, Nazareth, quelque chose qui se produit dans le ventre d'une jeune femme. Dieu devient humain. Il prend la condition humaine. Ça veut dire qu'il ne reste pas là au-dessus, il ne reste pas le Dieu qui a lancé tout ça, puis qui est émerveillé devant ça. Hein? Tu sais, Dieu, selon le premier livre de Genèse, quand il voit son œuvre qui se développe, et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit que c'était bon. Puis quand il arrive à l'être humain créé, voilà, c'était très bon. Ben, il vient expérimenter ce qu'il ne pouvait pas expérimenter tout seul dans la Trinité, là, au-delà des temps. Il vient faire l'expérience de ce que c'est que d'être humain. De pouvoir toucher, d'être touché, hein? De grandir à partir du petit bébé qui est là, là, puis qui devient tranquillement là, un beau petit bonhomme, tu sais, puis qui se met à marcher comme un humain. Puis qu'il est un adolescent, puis quand il a 12 ans, il s'en va au temple, puis il fait une fugue, comme les petits gars font souvent à 12 ans. Hein, il s'essaye, bon, il reste au temple 3 jours. Comme un adolescent peut le faire. Puis il devient un homme, puis les gens le voient. Puis il y en a qui l'aiment beaucoup, parce que quand il parle avec son cœur. Puis il y en a qui l'aiment moins parce qu'il est dérange. Parce qu'il dit que l'être humain passe même avant les lois religieuses. Wow! Quel scandale! On savait que les lois religieuses, ça va, hein? Ce qu'il faut pas faire, puis tout ça, ça passe avant tout. Puis lui, il dit non. L'être humain passe avant. Vous vous souvenez quand il a dit ça? Il l'a fait plusieurs fois, là. Entre autres, une femme qui était toute courbée, elle faisait 18 ans qu'elle était toute penchée comme ça. Moi, j'ai un de mes confrères à Richelieu, là. Ça fait, lui, maintenant 6 ans, je pense, et il ne peut jamais regarder en haut. Il est toujours penché. C'est pas rien que fatigant, ça. Tu viens que tu ne sais plus si tu es encore un être humain. Tu n'es pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux. C'est dur, ça. Mais il y a une femme, 18 ans, comme ça. Elle lui demande même rien. C'est lui qui va au-devant. Puis qui lui dit, redresse-toi. Hein? Pour lui, c'est tellement important. L'être humain dans toute sa dignité. Bon. Ben, c'est peut-être ça la première chose qu'on veut dire quand on dit Dieu en Jésus, la parole de Dieu, s'est faite chair. Il est venu dans notre condition humaine. Il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de fatigue. Hein? C'est dit plusieurs fois, fatigué du voyage, Jésus s'assied sur le bord du puits. Il y a eu des moments où, pour lui, la vie était compliquée aussi, comme pour nous autres. Des moments où il était rejeté, comme nous autres, ça nous arrive. Alors, il est venu faire l'expérience qu'il ne pouvait pas faire dans son ciel tout seul. Être un humain parmi d'autres. Hein? Ben, pour faire ça, il fallait que Dieu choisisse de rentrer dans une histoire, dans un peuple, à un moment donné. Hein? Parce que tu ne peux pas être un humain tout seul. On est là, nous autres, parce que tout d'un coup, hein, bon, à travers notre histoire familiale, nos familles, tout ça, bon, on vient de quelque part. D'ici au Québec, moi je viens de l'Ontario. Puis, il y en a qui ont 30 ans ici, il y en a qui ont 60 ans, d'autres, moi j'ai 79. On est quelque part dans le temps aussi. Hein? Alors, Dieu, quand il a décidé de s'incarner, de devenir un humain, il a fait des choix à ce moment-là où il deviendrait l'humain. Puis, avec qui il vivrait sa vie? Là, j'ai besoin que vous m'aidiez. On va chercher ensemble qui c'est qu'il y avait là au temps où Jésus est venu, où le Verbe s'est fait chair. C'est qui avait là, dans le monde autour de Jésus? Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il a fait comme choix Jésus quand il a grandi.
Abraham.
Qui avait là au temps de Jésus?
Abraham.
Abraham, c'est un petit peu avant, hein? Tu vois, il est venu, Abraham, c'est notre père dans la foi. Lui, c'est plusieurs siècles avant. Il aurait pu naître à ce moment-là, mais c'est pas ça. Il a choisi un autre moment. Il y avait Jean-Baptiste qui est arrivé juste quelques mois avant lui, c'est vrai. Qui c'est qui avait à part de ça? On parle juste d'une personne à la foi, pour que je comprenne, là. Qui y avait? Bon, il y avait Marie, il y a même Joseph. OK. Qui avait à part de ça? Sainte-Anne, peut-être qu'elle n'était pas morte, puis qu'elle était encore là, la mère de Marie. Et qui avait dans, là où Jésus est né?
Oui.
Il y avait des pharisiens, il y avait quoi? Ah, il y avait les prêtres au temple, les docteurs de la loi, les experts, hein, dans la Bible, là. Oui, qui étaient là, OK. Qui apporte ça? Siméon était là, il attendait, c'est un vieux qui était au temple, bien sûr, oui. On va vous donner un petit détail. On va fêter Noël, là, hein, la semaine prochaine. Chaque année, à la messe de minuit, on a toujours le même évangile. Parce que le reste de l'année, là, les évangiles, ils circulent sur 3 ans. Mais à Noël, pour la messe de minuit, on a toujours le même évangile. Qui commence comment? L'évangile de Noël. En ce temps-là. En ce temps-là, parut un édit, hein, c'est-à-dire un règlement, de l'empereur. C'est ça. OK? C'est curieux, hein? Le soir où nous autres, on fait une fête pour Jésus, on est contents. Puis on veut fêter le petit qui arrive. Hein, c'est quelque chose quand un petit arrive, une famille, tu sais, là. Bon. Le soir où on fête ça, le premier mot qu'on dit, c'est l'empereur. OK? Il y avait un empereur dans ce temps-là. Pourquoi quand j'attire l'attention? C'est parce que s'il y avait un empereur, c'est comme ça qu'il y avait des gouverneurs dans les provinces. Hein? On va entendre parler de Pilate, puis les autres. Puis s'il y a ça, ben ça veut dire qu'il y a une armée aussi qui est là pour garder l'empire. Hein? Ça fait quoi avoir ça un empire? Pourquoi qu'il avait demandé que tout le monde aille s'enregistrer dans son petit village? Pourquoi? Un recensement, mais pourquoi qu'il faisait un recensement? Il était fier d'avoir un gros cahier. Oui. Oui. Ah, voilà, hein, pour faire payer, pour avoir des taxes. Un empire, c'est ça que ça fait. Hein? Un empire, parce qu'on a encore de nos jours des empires qui dominent d'autres pays, mais pourquoi? Pour avoir leur richesse, pour avoir des taxes. OK? Ça nous explique, hein, juste ça, là. Le contexte dans lequel Jésus est arrivé, c'est un contexte où son petit pays, la Palestine, était dominé par un autre grand pays, les Romains. Et ça explique pourquoi les gens étaient tannés, étaient dominés. Non seulement parce qu'il y avait des taxes à payer, mais parce qu'aussi on faisait des massacres. Hein? Les saints innocents qu'on va fêter quelques jours après, là. Pourquoi? Parce que Hérode, qui était aussi un représentant de l'Empire, il avait peur de perdre sa position. S'il y a un roi qui vient de venir au monde, il a tué des enfants. Il paraît que quelques années, quand Jésus avait probablement 13-14 ans, il y a eu un autre gros massacre à Jérusalem. 3000 personnes, 3000 hommes, le même jour. C'est les historiens du temps qui nous disent ça. Alors, évidemment qu'on attendait un sauveur. Hein? On attendait quelqu'un qui nous libérerait de tout ce fardeau-là. Puis le fardeau aussi, qui était devenu la religion, qui bien imposait toutes sortes de choses, et bon. C'est important de voir dans quelle situation Jésus est arrivé. Bon, qui c'est qui avait à part de ça? Autant de Jésus, on en avait pas mal, là.
Des pêcheurs.
Il y avait des pêcheurs, donc des gens qui allaient à la pêche.
Des apôtres.
Puis il y avait des pécheurs aussi, parce que des gens qui étaient reconnus comme ça, sur la place publique.
Il y avait des bergers
avec des troupeaux, oui. Oui. Oui, OK. Bon. Regardez, j'ai fait l'exercice hier soir, je me suis couché à minuit. Puis, j'ai juste, pour ça que vous lisiez tout de loin, là, mais je vais juste vous dire, en gros, qu'est-ce qu'il y a ici. Hein? J'ai mis que l'Empire, hein, qui était là, on a parlé tantôt, avec l'empereur, les gouverneurs, les taxes payées, toutes ces choses-là, les soldats, hein? Il y avait ça. Il y avait, on a parlé tantôt, il y avait des grands prêtres, puis des prêtres, au temple, hein, à Jérusalem, OK? Puis qui étaient là pour tenir l'ordre, mais surtout donner les lois de Dieu, puis les choses à faire, puis à pas faire, puis les rituels, les sacrifices au temple. Il paraît qu'ils tuaient 24 000 bêtes par année d'un sacrifice au temple. T'sais? Ça fait des animaux qui sont massacrés sur, comme tel. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Bon. Et on l'a mentionné, il y avait les pharisiens, il y avait d'autres groupes comme ça. Puis, il y avait, avec ça, bien, il y avait beaucoup de lois, de rituels qui se faisaient au temple. Hein? Puis, il y avait une taxe pour le temple aussi. Évidemment. Il fallait que ça soit payé, ça aussi. Bon, des dons faits au temple. Bon, il y avait des gens dans les villages qui avaient une petite synagogue. Tout ça, bien organisé, la religion. OK? Mais il y avait aussi, dans le même temps, on a parlé tout à l'heure des pêcheurs, des ouvriers, des artisans. Il y avait des malades. Bon, je n'ai pas mentionné, hein? Des malades, des infirmes, les personnes handicapées, les aveugles, vous vous souvenez? Les lépreux. Comment ils étaient vus par les autres, eux autres? Bien souvent, là, on disait, tasse-toi, hein? Puis même pire que ça, on disait, si la personne est malade, aveugle, encore plus si elle est lépreux, certainement, quand elle fait quelque chose de grave, c'est une punition du bon Dieu. C'est même qu'on voyait ça à ce moment-là. Vous savez, quand les apôtres, même, ils disent, l'aveugle qui est là, c'est-tu lui qui a péché ou c'est ses parents? Jésus, il bouille dans son œil, il dit, non, ni un ni l'autre, c'est pas pour ça la maladie. C'est pour que Dieu prenne soin à travers les autres. Puis là, il guérit ces aveugles-là. OK? Bon. Alors, il y avait des gens comme ça. Il y avait des enfants. Il y avait des femmes, hein? Parmi le peuple. Puis justement, les femmes, surtout quand il était une nouvelle maman, n'avaient pas le droit d'aller au temple avant d'être purifiées. Puis c'était dans ses menstruations, elles n'avaient pas le droit d'aller au temple non plus. Hein? Il y avait toutes sortes de lois comme ça pour garder un peu la distance. De sorte que ça, ceux qui étaient ici, c'était regardé comme les purs, les prêtres, les sadducéens, les pharisiens. Les gens qui étaient en loi et qui avaient bien donné leurs taxes au temple, c'est considéré comme des purs. Et les autres, autour, les bergers, on ne les aimait pas parce que, vous savez pourquoi? Ils vivaient dans la montagne, ils étaient même décomptés de leur famille, bien souvent. Ils vivaient dans la montagne avec les moutons. Puis quand ils mouillaient, bien, ils couchaient avec les moutons aussi. Alors, ils sentaient le mouton. Puait. Ce n'était pas agréable. Des fois, ils étaient obligés de faire une razzia dans le village pour manger. Donc, on les prenait pour des voleurs. Vous, toutes sortes de gens comme ça, là, qu'on mettait dans la marge de la société et même de l'Église de ce temps-là. Hein? Et quand Dieu a choisi, comme on l'a dit tantôt, de prendre la condition humaine, c'est-à-dire de venir faire l'expérience, qu'est-ce que c'est être un humain? Qu'est-ce que c'est grandir? Qu'est-ce que c'est avoir des amis? Qu'est-ce que c'est avoir aussi une famille? Qu'est-ce que c'est des fois être accepté ou pas accepté? Il a fait toute cette expérience-là. Mais quand il est venu, Dieu, Dieu de l'univers, quand il est venu prendre la condition d'un petit bébé, où c'est qu'il est venu au monde? Est-il venu au monde à Jérusalem, à côté du palais, puis du grand temple? Où c'est qu'il est venu au monde?
C'était quoi Bethléem? C'était quoi? T'es-tu bien gros?
Non, c'est
un petit village. Dans la montagne, perdu. Puis en plus, il est au monde, même pas à l'auberge du village. Il n'y a plus de place. Il est né dans un petit réduit, en quelque part. Donc, il est né vraiment, là, dans la marge de la société. Parmi les plus pauvres, parmi ceux qui n'étaient pas importants. Bon. Il n'est pas né dans la grande famille sacerdotale du temps. Il est né parmi ceux qui étaient déconsidérés. Puis ce qui est frappant, c'est que quand il va mourir aussi en dehors des murs de Jérusalem, sur le Golgotha, en dehors des murs. Jésus commence et finit sa vie. Pas dans les choses importantes, puis les endroits, puis les gens qui peuvent le considérer le plus. Il meurt comme il a vécu, comme il est né aussi, en marge de la société. Ça, c'est le choix que Dieu a fait quand il est venu parmi nous autres. Pour devenir l'un de nous, hein, pour devenir dans la condition humaine, il s'est situé dans une histoire compliquée, avec beaucoup de domination. Mais lui a fait le choix d'être parmi ceux qui ont besoin d'être compris avec leur cœur. Il a fait le choix d'être une personne compatissante, continuellement proche des gens fragiles. On connaît les histoires, comment Jésus a vécu sa vie, hein, mais j'aurais le goût de prendre une des rencontres bien spéciales que Jésus a vécues, qui nous montre comment il avait vraiment un cœur humain, un cœur de compassion, un cœur de chair. Hein? C'est ça que ça veut dire. Vous savez, Ézéchiel, déjà un prophète autrefois, avait dit ça de la part de Dieu. Je vais enlever votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez, des fois, on dit, oh, lui, là, c'est comme s'il y avait une roche à la place du cœur. Je comprends rien. Et je me sens sensible à une souffrance de quelqu'un d'autre. Il y a un cœur dur. Hein? On dit ça des fois. Hein? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un qui est proche, qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous comprend avec le cœur de l'intérieur? Puis qui nous prend fragilement dans nos faiblesses, dans nos fragilités. On dit, mon Dieu, c'est donc un bon cœur. Hein? Bien souvent, on va dire, mon Dieu, c'est bon. Hein? Tellement c'est proche du cœur de Dieu. Ça nous dit le cœur de Dieu quand quelqu'un vit ça avec bonté. Bien, Jésus, ça tient un cœur comme ça. Pas je me souvenais, une bonne fois, il est en train de parler à la foule dans le temple de Jérusalem. Hein? Il a même eu prêcher sur les routes ou dans les champs ou sur les montagnes, mais parfois il est allé au temple. Puis là, il prêche, il y a beaucoup de monde qui sont là. Puis pendant qu'il est en train de parler, puis il parlait probablement de miséricorde, puis d'amour, puis tout ça, c'est de ça qu'il parlait à Jésus. Puis d'un coup, il entend du bruit. Les gens se retournent. Puis là, on voit des pharisiens puis des gardes du temple. Donc, les gens, là, qui sont corrects avec le temple. Puis qui traînent une femme puis qui la traînent jusque devant Jésus. Alors, imaginez-vous, là, tous ceux qui étaient là, toute la commotion que ça a faite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'il amène cette femme-là? Puis là, ils lui disent à Jésus, on a trouvé cette femme-là dans un moment de fragilité, d'infidélité. Alors toi, qu'est-ce que tu veux faire devant ça? L'autre, la loi, hein? La loi donnée par Moïse pour le temple, tu sais, la loi nous dit qu'il faut lapider cette femme-là. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Pas parce qu'ils veulent savoir vraiment, c'est parce qu'ils tendent un piège, hein? Parce que s'il dit, ben, il faut la lapider, Ils vont dire, oh, tes beaux discours sur la miséricorde, là, ça va pas bien loin. Puis s'il dit, non, non, faut pas faire ça, ah, t'es contre le temple, t'es contre Moïse. Mais vous, vous allez prendre au piège. Souvenez-vous ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est bon. Jésus parle pas. Des fois, on se souvient qu'il a dit telle chose, mais quand il y a des choses importantes, Jésus, il croit, lui, que, voyez-vous, la parole, lui, il est une parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Mais elle passe par la chair. Elle passe par ses gestes autant, puis même plus, que par ses paroles. C'est pareil pour nous autres, d'ailleurs. On va y revenir tantôt. Alors, il parle, il répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? Souvenez-vous. Il s'approche, là où est la femme, là où il y a bien de la poussière à terre, puis il se met à côté d'elle. Je suis sûr qu'il s'est penché comme ça, parce qu'il a écrit à terre, il n'y avait pas un grand doigt, là, comme E.T., là, tu sais. Hein? Il s'est penché. Puis il a commencé à dessiner quelque chose, je ne sais pas quoi, on ne saura jamais. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui va se passer si, parce que là, il leur a dit, là, il n'a rien dit encore, il a juste fait ça. Si les gens qui sont venus pour garocher des roches pour tuer la femme, là, s'ils commencent à y lancer, lui est juste à côté, là. Il va recevoir les roches autant qu'elle. Hein? Ça qui risque sa vie à côté d'elle, puis écrit. Les gens étaient intrigués, évidemment. Alors, ils se lèvent, il leur dit que celui qui n'a jamais fait de péché lui lance la première pierre. Regardez dans votre cœur. Regardez dans votre cœur. Vous, ils ramènent à leur cœur. J'espère qu'ils vont avoir un petit peu de cœur de chair, pas juste un cœur de pierre, comme la roche qui tienne. Hein? Alors, il leur demande ça. Puis là, sans attendre la réponse, il se repenche de nouveau. Il prend encore le risque, parce que peut-être qu'il y en a qui n'auront pas compris, puis qui vont lancer des pierres. Mais là, Saint-Luc, il dit, ils ont commencé à laisser tomber leurs pierres, puis ils sont partis, en commençant par les plus vieux, qui avaient peut-être plus de choses à se faire pardonner, ou qui ont compris plus vite. Peu importe, en tout cas, ils sont partis. Puis regardez comme c'est beau. Avec ça, il dit à la femme, personne ne t'a condamné. Elle dit non, moi non plus. Il libère la femme. Hein? Mais il a commencé par libérer aussi ceux qui se pensaient obligés de la tuer. En les renvoyant à leur cœur, ils ne sont plus obligés de la tuer. Leur cœur, puis la bonté de Dieu qui habite leur cœur est plus grande que la loi qui leur demande de tuer. Alors, il fait une double libération. C'est comme ça que Dieu vient dans notre chair. Lui-même compréhensif, lui-même plein de miséricorde, mais nous appelant, nous autres aussi, à vivre la même chose. Dans nos moments de fragilité, il nous dit, regardez d'abord votre cœur. C'est là que se passent les vraies affaires. C'est pas dans les lois extérieures. C'est dans ce qui se passe dans votre cœur que vous allez me rejoindre. Parce que moi, je suis venu avec le cœur de Dieu pour vous rejoindre. Ben, je pense qu'on a déjà en saisie pas mal là, que la parole qui se fait chair, c'est à la fois dans la vie ordinaire d'un petit enfant qui grandit. C'est dans une histoire, l'histoire de son peuple, l'histoire de ceux qui sont dominés à ce moment-là, de toutes sortes de manières, mais qui veulent se tenir debout. L'histoire concrète de nos fragilités. Hein? C'est comme ça que la parole est devenue chère, proche de nous, avec nous. Ben, maintenant, figurez-vous que la chair peut devenir parole. La parole de Dieu est devenue chair. Et maintenant, en nous autres, la chair veut dire, nous autres tels qu'on est, on devient, nous, à travers parole de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que dans ce que je vis, dans mes relations, dans mes moments même d'infidélité, mais où je me reprends, puis je veux être guéri à l'intérieur. Chaque fois que je fais ce mouvement-là de m'accueillir pour me laisser transformer, je deviens la chair qui devient parole à mon tour. On va faire ça dessus dans une manière bien spéciale. La parole de Dieu, elle devient chair quand on la médite, quand on la reçoit, mais aussi parfois quand on la dit les uns aux autres. On va demander à notre ami Claire ici de nous dire, dans des gestes humains, la belle parole qu'on a au début de l'Évangile de Saint-Jean, qu'on appelle le prologue de Saint-Jean, où justement Jean nous dit, hein, la parole, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Et pour le voir, hein, pour que cette parole prenne vie, on va l'écouter dans des gestes et une parole. Claire, Denis, vous allez bien?
C'en est une des manières où la parole qui nous habite, la parole de l'Évangile, et pas seulement les textes comme tels, mais je dirais toute la grande aventure de Jésus qui est dans notre cœur, transparaît dans nos gestes. J'ai beaucoup aimé l'insistance sur Jésus qui est venu habiter parmi nous. Jésus n'est pas venu seulement passer un petit week-end, comme un touriste. Il est venu habiter. Il est venu prendre sur lui notre condition fragile, mais tellement belle, où on peut vivre des choses dans notre cœur, grandir, comme lui a grandi, comme lui a appris, comme lui a montré de la compréhension, de la présence, de l'amitié. Et maintenant, c'est tous nos gestes qui deviennent langage. J'ai apporté avec moi ici un poster de loin, je ne sais pas si vous allez reconnaître quelque affaire, mais c'est tout des mains, juste des mains que vous voyez là-dessus. Des mains dans le quotidien, qui lave la vaisselle, qui suit le plancher, qui écrivent au dactylo ou à l'internet. Des mains d'amitié. Des miens qui disent l'amour, qui disent « Je suis précieux, tu es précieuse pour moi, je veux rester avec toi. » Vous, dans tous ces gestes du quotidien, la parole devient chair et notre chair devient parlante. Nous disons de quoi? Dans ma manière de regarder quelqu'un, dans mes yeux, dans ma manière de m'approcher, pas trop proche, laisser l'autre avoir sa distance, m'approcher peu à peu, comme le renard du petit prince. C'est ma manière de dire t'es précieux, de dire des mots d'amour, pas rien qu'au salon funéraire à bonjour, là, mais à dire, puis se pratiquer longtemps, souvent dans notre vie. Notre chair devient à ce moment-là parole de Dieu. Et de fait, ce qui est beau, c'est que la religion chrétienne, on est fier d'être des chrétiens. Moi, je suis fier de quoi d'être un ami de Jésus. Puis d'avoir quelqu'un comme Jésus pour me dire comment me comporter avec les autres. Tellement fort que quand il lui a dit, là, Dieu a tellement aimé le monde. Puis Dieu a tout donné pour nous autres. Il ne nous dit pas il faut l'aimer en retour. Il dit, maintenant, il faut s'aimer les uns les autres. Il faut s'aimer les uns. Il dit, dans ma manière d'aimer les autres, d'accueillir, de pardonner parfois, que je redis dans de la chair cette parole d'amour que j'ai reçue de Dieu. Vous voyez comme c'est un va-et-vient entre la parole de Dieu qui m'habite, qui est venu vivre parmi nous autres, qui est venu habiter notre terre, et l'expression qu'il en a donnée dans des gestes humains et que je dois donner à mon tour. Bien, notre religion chrétienne, c'est la plus charnelle
des religions. Comme je disais tantôt, là, pour les Juifs, c'est un scandale de dire « Yahvé, l'Éternel, est devenu un humain. » Puis ils ont tué Jésus. C'est un scandale. Tu es seulement contre Dieu si tu dis que Dieu habite ce cœur humain, cet homme, Jésus. Pour les païens, c'est une folie. Parce que les dieux, ben, c'est les dieux, que ce soit Zeus, puis les dieux des Grecs, puis les dieux des Hindous, c'est des dieux qui ont des grandes histoires, qui ont des belles affaires qui se passent entre eux autres. Mais ce qui se passe sur la terre, ça ne touche pas plus qu'il faut. Nous autres, notre Dieu, il s'est fait chair. Il s'est fait l'un de nous. Et ça, ça fait toute la différence. Eh bien, notre religion charnelle, malheureusement, comme n'importe quoi qui évolue et qui se durcit avec le temps, bien, nos gestes les plus signifiants, très souvent, étaient devenus très étriqués. On va vous donner un petit exemple. Quand j'avais 17 ans, une de mes sœurs, une belle petite fille qui s'appelle Marie, pour ça. Elle me demande pour être parrain. Elle, si j'étais fier. Tu sais, elle, il faut mettre ma cravate, et puis, pour être parrain. Alors, je suis même préparé, j'ai trouvé au presbytère, là, un petit livre qui parlait du baptême, tu sais, puis ça, puis bon, je me suis préparé comme il faut. Tu sais? Puis là, ben, ça se passe un dimanche après-midi. Puis là, on arrive, on est supposé être là pour 2h30, on arrive à 2h20 avant, 2h15. Mais là, il y avait déjà 2-3 autres familles qui attendaient en ligne. Dans ce temps-là, on ne faisait pas des baptêmes communautaires, c'est un après l'autre. Puis c'était pas dans l'église, c'était dans la sacristie, en arrière. Puis c'était pas en beau français qu'on peut comprendre, c'était en latin. Puis, moi j'avais tout lu les affaires avant pour reconnaître ça. Et le vicaire qui a fait ça, là, il a fait ça tellement vite. En 12-13 minutes, il avait fait les 3 exercices puis toutes les affaires du temps, tu sais, bon, en latin. Puis d'un coup, c'était fini. Puis là, il dit à mon beau-frère, ben, veux-tu qu'on sonne les cloches? Mon beau-frère a compris, il a sorti un 5$ puis il a donné pour sonner les cloches. Bon. Puis j'étais assez déçu après coup. Moi qui m'étais bien préparé pour être parrain, mais vous, c'est de valeur, hein? Heureusement, depuis ce temps-là, on a fait un bon bout de chemin dans la manière de célébrer les sacrements, mais c'est terrible. Nous, on avait réduit ce qui était l'expression des signes, tu sais, verser de l'eau, accueillir un enfant, prendre le temps de l'offrir à Dieu, de l'embrasser. C'est ça qui sont des signes que Dieu nous aime. Si on fait juste des affaires, tu sais, vite puis étriquées, là. Alors, c'est de valeur, mais vous, on a une religion très charnelle. Quand on va communier, un moment spécial, hein? L'Eucharistie, on va le faire tantôt. Quand on arrive à la communion, un moment intense, c'est là de dire, oui, ben là, regarde, Dieu rentre dans ta vie de façon spéciale aujourd'hui, là. C'est quoi que la personne qui donne l'hostie dit?
Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Ça serait bien plus beau si on disait, voici l'âme du Christ, voici l'esprit du Christ. Non, nous autres, on dit le corps du Christ. On est convaincus que dans ce que Dieu a fait en devenant un corps humain, chair humaine, hein, il y a un mystère extraordinaire pour nous amener à accueillir ma condition humaine à moi, mes fragilités, mes lenteurs, la perte de mémoire, toutes sortes d'affaires. Oui, c'est dans l'humain que Dieu est venu nous rencontrer. Et c'est ça que Jésus veut nous dire. Hein? Une des plus belles représentations de Jésus, le soir du Jeudi Saint, je l'ai trouvé dans un dessin ici, où au lieu des apôtres, vous savez, la représentation qu'on voit habituellement de Vinci, là, de Vinci, est très belle, mais j'aime encore mieux celle-ci. Où c'est Jésus, parmi des gens, probablement des gens de la rue, hommes et femmes, qui viennent prendre le repas du soir avec lui. Ça me dit beaucoup de ce que Jésus a fait comme choix. C'était pas des grandes draperies qui comptaient. C'est le fait d'être autour d'une table très simple avec des gens qui accueillaient son message. Puis, pour la résurrection, ce que j'aime beaucoup, c'est cette image de la résurrection où Jésus, en haut ici, est comme le ressuscité, mais la croix est portée par tout un peuple. Hein? Jésus-Christ qui vit aujourd'hui sa mort et sa résurrection, c'est dans l'histoire humaine très concrète, avec des femmes ici qui se relèvent peu à peu, en plutôt que de rester écrasées, des enfants qui jouent, qui font la fête ensemble. Dans la vie ordinaire, être capable de reconnaître Jésus dans la chair, c'est être capable d'ouvrir mon poste de télévision et de dire, « Ah, ça c'est donc comme quand Jésus a fait telle chose. » Et vous, hein, le reconnaître vivant aujourd'hui, le reconnaître dans la vie, dans l'expérience humaine des gens, c'est là qu'il est en train de vivre. Alors, ce qu'on fait à Noël, le Verbe s'est fait chair.
Ce qu'on voit, c'est la croix.
Oui, la croix ici en bas.
Ouais. La résurrection, c'est
une... C'est celui qui est en haut, là, avec... Oui, tu vois, avec les blessures encore, tu sais, là. C'est une symbolique, hein? C'est juste pour montrer que Dieu marche avec son peuple, Jésus marche avec son peuple, la croix portée par tout un peuple, ici. Puis, ici, il y a les mères qui déplorent le martyr de leurs jeunes, de leurs enfants. Okay. Bon, alors, il me semble ce qu'on peut retenir, c'est ça. Jésus venu dans la chair, prendre notre condition humaine, jusque dans nos fragilités, se lier d'amitié, surtout avec ceux qui sont les plus déroutés, les plus écrasés de la vie, mais qui comptent maintenant sur notre chair. Pas seulement mes pensées, là, mes gestes, mes regards, mon engagement, hein, ma manière d'embrasser quelqu'un, de le regarder avec amitié, avec amour, ça, pour dire aujourd'hui le même message d'un Dieu qui nous aime follement. L'une des plus belles manières de manifester Dieu dans la chair, c'est dans le silence. Quand tout d'un coup, j'accepte de ne pas être agité, pas être, tu sais, avoir ma pensée à toutes sortes d'autres choses, tout d'un coup, je me ramène simplement dans le silence. Parce que Dieu qui est venu dans la chair, il nous dit aussi le silence de Dieu. C'est un silence amoureux, là. Comme un vieux couple, là, qui se berce le dimanche après-midi et sa berceuse, sa galerie, qui se disent pas un mot, ils n'ont plus besoin de parler. Ils se comprennent par le cœur. Ils se comprennent même par le silence ensemble. C'est ce qu'on va faire maintenant, dans quelques minutes. On va prolonger dans le silence l'adoration, hein, cette présence de Dieu dans notre chair aujourd'hui, qui prolonge sa présence dans la chair de Jésus. Quand j'étais petit bonhomme, on faisait la prière en famille, autour de la table de cuisine. Je me souviens que maman commençait toujours, je ne sais pas si vous faisiez ça chez vous, en disant, « Mettons-nous dans la présence de Dieu et adorons-le. » Juste dire, je me mets en présence. J'accueille tout ce qu'il y a en moi, mais là, je vais juste être présent à ce Dieu qui m'est présent depuis qu'il est venu dans la chair. On va poursuivre durant 15 minutes en silence.